C'est bon de célébrer le Seigneur. C'est bon. Et je pense à tous ces textes dans l'Écriture. C'est chouette qu'il y ait des psaumes de louange. Plein de psaumes de louange. C'est chouette qu'il y ait Genèse 1 et 2, la création, les oiseaux, les êtres humains. C'est beau qu'il y ait le cantique des cantiques dans la Bible. C'est vrai. C'est beau qu'il y ait 1 Corinthiens 13, l'hymne à l'amour. C'est chouette que dans la Bible, ça se termine par Apocalypse 21 et 22, où c'est le grand mariage de Jésus et de son Église. C'est extraordinaire, tous ces psaumes qui nous incitent à louer le Seigneur pour ce qu'il est. C'est extraordinaire, tous ces textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent de l'œuvre de Jésus. Tous les débuts des épîtres où on tire les conséquences de l'œuvre incroyable de Jésus, l'épître aux Hébreux, par exemple, qui nous montre la supériorité de l'œuvre de Jésus. Surtout, c'est extraordinaire, tout ce texte. Ça nous dynamise, ça nous fait du bien. Et on se demande parfois, mais pourquoi vous avez dû ajouter d'autres choses, quand même? Avec ce petit canon-là, c'était suffisant. Pourquoi il fallait Genèse 3, avec la sortie du Jardin d'Éden? Pourquoi il a fallu le déluge? Pourquoi il a fallu Sodome et Gomorre? Pourquoi il a fallu tous ces textes prophétiques avec des jugements de la part de Dieu? Pourquoi dans l'Apocalypse, il y a, avant Genèse 21-22, il y a tout le châtiment sur Babylone, sur Satan? Pourquoi le livre des juges avec ses hauts, ses bas, ses misères? Pourquoi la conquête de Canaan? Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, c'est un génocide ». Pourquoi tous ces textes? Pourquoi tous ces textes qui nous relatent le nombre de combattants, d'hommes forts, de David, de Saül? Pourquoi tout ça? Avec Genèse 1 et 2, c'était bon. Avec le cantique des cantiques, c'était suffisant. Pourquoi? Parce que, on rejoint notre thème, hélas, parce que la vie est un combat. Je l'ai dit, et je vais reprendre un peu l'introduction, et on va s'attaquer au combat contre notre chair. On va essayer de comprendre ce que ça signifie. Mais qu'on le veuille ou non, on est engagé dans un combat cosmique. Que tu en aies conscience ou pas, ça ne change rien. Tous ces beaux textes sont importants, mais les autres sont là parce que la vie est un combat. Elle n'est pas que ça, mais elle est toujours un combat. Et je crois que plus je médite ces choses, plus je me dis que, ok, alors on sort tout doucement de cette période de confinement, de pandémie. Mais je crois que, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, on n'a pas vraiment conscience de cette réalité-là. Ça n'impacte pas vraiment notre conscience, notre perception de la réalité. Quand on regarde nos agendas, peut-être nos priorités spirituelles, parfois la désinvolture par rapport à certaines choses que le Seigneur nous demande, Est-ce que je me trompe de dire qu'on n'est pas habité par cette mentalité qu'il y a vraiment des combats à mener? On priait, on veut le faire pendant tout ce mois pour nos frères et sœurs indiens. Je pense qu'ils réalisent le combat qu'ils doivent mener. Mais c'est la même chose pour nous, différemment. Je crois que nous nous croyons en période de paix et pas de guerre. D'ailleurs, OK, c'est une période de vacances, on a besoin aussi du repos. C'est pas que on doit pas se reposer. Mais quand on pense à notre programme de vie, à notre programme d'église, est-ce que ça transparaît? Notre agenda est fixé en fonction d'une guerre? Je pense, même nos cheveux blancs, peu ont vécu la guerre. Mais ils devaient vivre différemment. Les familles devaient vivre différemment. L'un ou l'autre des enfants était parti au champ de bataille avec cette peur qu'ils ne reviennent pas. On se faisait un sang d'encre. On vivait différemment. Il y avait un climat différent. Je crois que nous ne sommes pas conscients que le combat dans lequel nous sommes engagés est plus grave et plus périlleux que la Seconde Guerre mondiale. C'est chouette qu'il y ait toutes ces rétrospectives et on comprend mieux ce qui s'est déroulé. Mais je ne crois pas qu'on est conscient que le combat que nous avons à mener est plus féroce que celui de la Grande Guerre ou de la Guerre mondiale. Je ne suis pas toujours conscient que ma propre chair, on a trois ennemis, on va voir, on va détailler le premier aujourd'hui. Je ne suis pas toujours conscient que ma propre chair, que le monde, que Satan, sont des ennemis pires que n'importe quel adversaire terrestre. On ne croit pas ça. Et pourtant, la Bible dit vrai. Pourtant, la Bible dit vrai. Qui parmi nous... Je nous prends un peu à la gorge hein, au début et après, je voudrais vraiment très pratiquement nous donner des outils. Je me dis, on a besoin de prendre conscience et d'adapter nos vies à cette réalité. Qui parmi nous considère que les victimes de cette guerre spirituelle, contrairement à la Seconde Guerre, ne perdent pas seulement un œil, un bras, même leur vie, mais la Bible dit que quand je perds dans ce combat, si je perds le combat, je perds mon âme. Que les gens qui sont engagés dans ce combat risquent de perdre l'éternité. La Bible le dit, j'aimerais que ça ne soit pas dans l'Écriture, mais parce que je veux me soumettre à l'Écriture, il nous faut le dire. Que l'enjeu des vies, hein, Jésus disait, mais ça sert à quoi de gagner le monde entier si tu perds ton âme pour toujours? Vous voyez, il y a quand même un fameux enjeu. Et nous, on a l'impression que... Et je ne dis pas qu'on ne peut pas prendre de repos. Oui, tous les soldats sur le champ de bataille doivent se reposer. Mais après, ils retournent au champ de bataille. Et on n'a pas conscience de ça. Je crois que c'est nécessaire que nous ouvrions les yeux sur le combat le plus grave qui soit et qui fait rage autour de nous et en nous et qui a pour enjeu nos âmes, les âmes de nos enfants, de nos proches, qui cherchent à détruire. Je crois, plus le temps passe, plus je me dis, il y a beaucoup de choses dans l'Écriture qu'on ne comprend pas si on ne l'intègre pas dans la notion du combat. Mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils priaient la nuit? Pierre est en prison, il va probablement être décapité comme Jacques, et l'Église est en combat. Je vois plusieurs pasteurs, on propose de faire des choses ensemble, de prier ensemble. Ils disent non, on ne va pas, jamais la nuit, il faut respecter le temps de sommeil. Alors je ne dis pas qu'il ne faut, faut pas dormir, c'est pas, mais vous voyez, l'excès contraire. Hein, où on n'intègre pas la prière, je prends cet exemple-là, dans une vraie dynamique de combat. Et je pense qu'il y a beaucoup de versets au sujet de la prière que nous ne pourrons pas comprendre si on l'utilise juste pour satisfaire nos petits besoins. Hein, je prenais l'image la semaine passée du service d'étage. Quoi. Hein, un peu de caviar, un peu de champagne. Seigneur, est-ce que tu peux me bénir? Or, dans l'Écriture, on voit très souvent la prière, elle est utilisée ligne de front et on demande de l'assistance pour le combat. Alors aujourd'hui, on va s'équiper pour le combat, peut-être le plus féroce. Les deux autres vont découler de la question de la chair. Et je voudrais lire deux textes avec vous dans l'Épître aux Romains. Romains chapitre 6, les 11 premiers versets, puis 3 versets dans le chapitre 8. Romains 6. Verset 1. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Mais certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre pour le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité pour la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De même, De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis au chapitre 8, les versets 12 à 14. Vraiment, ce que je vais vous proposer comme piste de réflexion, c'est tiré de Romains 6, 7 et 8. Hein, mais on ne pouvait pas tout lire maintenant.